Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'expérience inédite. Je suis Patrick Walid, partenaire Digital Experience et Retail au sein du groupe OnePoint. Depuis des millénaires, les êtres humains se sont échangés des commodités, des biens, des services. Depuis moins de 20 ans, l'histoire s'est accélérée et tout a changé. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur et révolutionne nos habitudes de consommation. Autour de 5 questions, nous échangeons ici avec une personnalité forte et inspirante qui nous partage sa vision de l'expérience dans son secteur. Commerce, distribution, culture, food, hôtellerie, tous les secteurs sont impactés. Pour changer, en échangeant, avec la touche OnePoint, au-delà de l'évidence. Bienvenue dans l'expérience inédite.
On vous a jamais dit « le client est roi ».
S'il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs.
Ce magasin est magique.
Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
Maître, vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis.
Ouvrons le magasin.
Merci, Roy, d'être avec nous aujourd'hui. On est très honorés de ta présence. Je le dis au nom de OnePoint. On est ici pour parler de l'influence, de l'expérience dans nos manières de consommer. Alors, je dis un gros mot, hein, forcément, puisque tu es dans le monde de la culture, donc est-ce qu'on dit qu'on consomme de la culture ?
On pourrait en parler, si tu veux. Hein.
Ce sera un autre sujet. Voilà, donc je commence avec un gros mot. On n'est pas là pour consommer de la culture, mais on est là pour parler de comment l'expérience a une influence, un impact extrêmement fort sur le monde dans lequel tu évolues. Alors, pour éclairer un peu nos auditeurs, nos spectateurs, puisque, je le rappelle, on va retrouver cet échange en podcast sur les plateformes de podcast à partir de demain. Donc, on pourra retrouver cet échange. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, Roy, tu es un personnage hybride entre la culture et le digital, et tu es une personnalité influente, importante de ce secteur-là. De mondes qu'on pourrait imaginer ne pas facilement cohabiter, mais tu vas nous éclairer sur ce sujet-là. Tu as travaillé chez MK2, donc exploitant de cinéma, et sur lequel tu as mis des choses en place très précises sur le domaine de l'expérience. Ensuite, tu as travaillé à l'INA, à un moment important de l'INA, où la digitalisation des contenus, de tout le fond documentaire qui aurait peut-être été amené à disparaître sans cette digitalisation, a permis une exploitation incroyable de ces contenus qu'on retrouve d'ailleurs sur Instagram, notamment aujourd'hui. Depuis maintenant, je crois, 8 ans, tu es en charge à la RMNGP, à la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, en charge de toutes les activités digitales. Et donc, c'est à ce titre que tu vas nous parler, et à ce titre que tu as la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions. Donc, pour ceux qui suivent ce live depuis quelques semaines maintenant, il y a 5 questions autour de l'expérience. Avant de te laisser la parole, je voudrais juste, si tu me le permets, raconter comment on s'est rencontrés et où on s'est rencontrés, parce que ça a un rapport très très précis, c'est un lien très précis avec l'expérience. On s'est rencontrés en 2006. J'ai vérifié la date hier. En 2006, à San Francisco, on était tous les deux, on faisait partie des quelques Français qui étaient invités par Google pour participer à un événement qui s'appelle le Google Zeitgeist, dans lequel donc Google invitait des personnalités éminentes à venir sur scène. Et nous, on était là pour les écouter. Parmi ces personnes et ces personnalités éminentes, il y avait des gens très, très intéressants, notamment un garçon qui s'appelle Mark Zuckerberg et qui, à l'époque, n'était pas très connu, mais qui a fait un petit bonhomme de chemin depuis. Et il y avait en introduction de cette série de conférences, Serge Brin, je crois, l'un des deux fondateurs de Google, qui était venu et qui nous avait raconté, je ne sais pas si tu te souviens de ça, qu'il avait eu une mauvaise expérience. Et sa mauvaise expérience, c'était qu'il avait réalisé, en partant de chez lui le matin, qu'il avait débranché 8 ou 10 câbles différents, avec 10 plugs différents. Tu te souviens de ça? Avec, voilà, son téléphone, son ordinateur, etc. Il dit, c'est pas possible que dans le monde entier, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un plug universel. Et il nous a rappelé quelque chose qui m'a marqué depuis, qu'il y a un seul endroit où il y a un standard électrique, électronique, dans le monde, sur lequel l'ensemble des pays sont mis d'accord, ce sont les allumes-cigares dans les voitures. C'est le seul truc universel. Donc, si on arrive à se mettre d'accord pour des cigarettes dans des voitures, on devrait se mettre d'accord pour procurer une expérience un peu meilleure à l'ensemble des consommateurs, sur l'ensemble des sujets qui nous aident. Alors, Roy, j'ai beaucoup parlé, mais on est là pour t'écouter, toi. Donc, je vais me taire, je vais te poser la première question. Quelle est pour toi la définition de l'expérience?
Écoute, l'histoire de l'expérience, pour moi, est une sorte de définition dialectique, une sorte de dualité. C'est ce qu'on pourrait dire... action et sensation, agir et sentir. C'est ça pour moi l'expérience, parce qu'à la fois on est actif, enfin on fait quelque chose et on reçoit quelque chose de retour. Donc, et cette expérience est construite tout le temps dans cette, je dirais, dualité. Après, bien évidemment, l'expérience est toujours dans une sorte donc, de contexte. Hein. On fait jamais une expérience, je dirais, complètement déconnectée de tout. Et ce contexte donne à cette dualité son, je dirais, son sens. Et pour j'en rebondir à un autre sujet, dans la culture, je pense qu'il y a une sorte donc de double dualité. Parce que parfois, cette expérience, il est pour soi. On fait l'expérience d'une expérience. Donc, on n'est pas offert une expérience de quelque chose d'autre. Ah, d'allumer, hein, de consommer des cigarettes, de la bouffe, ça. Mais on fait des expériences qui rencontrent d'autres expériences. Donc, il y a cette double dualité d'agir et sentir, action et sensation, que je trouve particulièrement intéressante.
Très intéressant, effectivement, ce sujet d'agir. Tu penses que si on n'agit pas, alors effectivement, en l'espèce, dans le cadre culturel, comment est-ce qu'on agit? On pense exposition, on pense expérience muséale, on pense aller visiter quelque chose. Comment est-ce que moi, je suis acteur de ça? Comment est-ce que le monde de la culture, qui donne des choses à voir, à comprendre, comment lui, il peut s'emparer d'une interaction avec un spectateur, avec un visiteur, qui jusque-là était plutôt justement un visiteur passif? Comment on le rend actif?
Oui, alors je pense que ça, c'est fait vraiment partie de ces contextes, hein, dans lesquels évolue l'expérience et où on est, je dirais, c'est pour ça que d'ailleurs je voulais rebondir sur ton définition de consommer, parce que pas parce que c'est un gros mot, et justement on consomme, et on consomme aussi de la culture, de l'art, c'est très important, mais ce sont aussi et plutôt sont des rencontres. Enfin, tu vois, des visiteurs qui à un moment ou à un autre sont en situation de rencontrer ce qu'on pourrait à un moment donné qualifier comme une expérience artistique ou culturelle. Donc cette rencontre-là qui est parfois enfin, plus passif, parfois plus actif, ouais. Parfois en interaction, parfois en observation, crée cette expérience. Après, une expérience, il n'est pas forcément être tout le temps actif, enfin, c'est de faire. Vraiment, c'est d'évoluer dans cette dualité.
Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place à la RMN, justement, qui rendent les spectateurs plus actifs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à l'avenir pour nous faire participer plus, si tu penses que le sujet de cette dualité est important, pour qu'on soit moins passif?
Oui, alors, bien évidemment, on le fait ça depuis un moment à la RMN, et peut-être parce qu'on évolue dans notre monde actuel. Hein, dans notre monde actuel, si tu veux, on pourrait, de mon point de vue, les qualifier avec quelques caractéristiques qui nous impactent directement. Et au-delà des questions, je dirais, des dimensions. Enfin, tu vois, depuis... moi, je bosse dans le digital depuis une vingtaine d'années. La population de la planète a augmenté de presque de 25 ans. Donc, il y a une question tout simplement des dimensions, je dirais, de ce que... dans le monde où on est, qui est très important. Mais au-delà de ça, et en parallèle, les dernières années, on voit... une sorte donc d'accélération, complexification, le monde est plus complexe hein, dans son sens. Et troisièmement, qui nous impacte aussi grandement, c'est que tout devient média. Hein, donc là, on est sur un média. Et cette notion-là, je pense, des accélérations, des complexités et des médias sont très importants pour moi. Je te donne trois exemples les dernières années dans différentes actions. Tu vois, par exemple, il y a plusieurs années, on a réalisé que nos publics est un média. Enfin, c'est pas simplement un média.
Mais ils produisent eux-mêmes de l'information.
Ben, chacun de nos visiteurs, médiateurs, est un média potentiel. Hein, parce qu'ils sont actifs sur les réseaux sociaux, ils diffusent. Et donc, on a fait une expérimentation, une expérience. Il y a quelques années, on a fait une exposition sur l'art cinétique Dynamo au Grand Palais, où on a présenté donc des œuvres cinétiques des années 50, 60, 70. Et on a compris que ce sera, enfin, on a compris, on a essayé, et puis on a compris, c'est que le public très friand à prendre en faut d'utiliser son smartphone. On était, c'était encore, je pense, en 2013. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était pas unanimement admis qu'il est permis de prendre des photos dans les expositions. On a évolué depuis. C'est pas simplement qu'on a permis, on les a incités en créant une application dédiée qui les permettait de capter des œuvres, leur interaction avec les œuvres en temps direct et les partager sur une mur dédiée, selon donc des thématiques de l'exposition, et de les partager à la fois en direct sur les lieux de l'exposition et aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi je raconte cette expérimentation et cette expérience? Parce que c'était un des premiers moments où on a fait cette expérience où le public même est un média. Hein. Dans le même sens, comment on travaille, comment on s'évolue dans ces mondes d'accélération et des complexités. On s'est dit, nous, on ne détient pas tous les savoirs, même par rapport, je dirais, à nos métiers hein, et à ce qu'on fait. Oh, on détient bien évidemment une part importante des savoirs et des expériences, mais dans la manière dont le monde évolue, il y a plein d'autres, de nos visiteurs, d'autres acteurs qui pourraient avoir des idées ou des propositions, des actions. C'est pourquoi, depuis un moment, on travaille avec un accélérateur de start-up, l'agrandisseur Fisheye, où on accompagne des start-up dans les domaines de la culture et de l'image, parce qu'on sait que c'est pas simplement nous qui détenons les savoirs. Et peut-être un troisième exemple, donc je parlais du public, je parlais des autres boîtes, mais aussi les artistes. Une typologie des partenaires très importants pour nous, qui échappe d'ailleurs à cette question un peu commercial au sens premier du terme, d'ailleurs, vraiment la création. Et on voit comment aujourd'hui, dans ces mondes qu'on vient de les décrire, hein, des révolutions numériques, les artistes aussi s'emparent des outils, des manières de diffuser. Et notamment, le printemps dernier, c'était il y a un an, ça a l'air d'être hyper long temps avec tout ce Covid depuis, mais il y a exactement un an, on a accueilli au Grand Palais une installation digitale énorme de Wim Wenders qui s'appelait Émotion. Il a créé exprès pour les lieux où il a visité lui-même sa propre, je dirais, création en créant une nouvelle expérience. Et là, du coup, c'était une véritable expérience physique où on expérimentait, comme disait Jérôme Notre, les commissaires, le cinéma, qui est un art narratif, est devenu une art plastique. Pas simplement une art, le cinéma comme art plastique, dans un environnement où l'expérience collective, esthétique des visiteurs était complètement intégrée de cette expérimentation. Donc, voilà, c'est simplement trois exemples pour montrer comment nous, on essaye.
Et est-ce que cette expérience collective dont tu parles, dans le cas de Wim Wenders, est-ce qu'elle va... Alors, je vais continuer l'analogie très, très, très vulgaire avec le monde du commerce. Je continue sur ma ligne. Il y a un certain nombre de marques qui se sont vues désapproprier toute leur brand equity, tout ce qu'elles avaient créé depuis 100 ans. Je pense à L'Oréal, par exemple, hein, qui est une marque emblématique dans l'univers des marques, et qui, petit à petit, s'est rendu compte ou a dû constater que son image de marque, toute la richesse de sa brand equity, était maintenant entre les mains d'un certain nombre de personnes. Tu parlais tout à l'heure des publics qui deviennent eux-mêmes des médias. Là, les clients deviennent eux-mêmes des médias, et pas seulement des médias pour parler des produits, mais pour faire la publicité ou la critique d'un produit, et que ces contenus-là, cette richesse des communautés, était plus importante que et devenait aux yeux de ceux qui allaient devenir des médias plus influents que la marque elle-même dans ce qu'elle a donné, plus légitime, plus crédible. Est-ce que dans le monde de la culture, on remarque la même chose, c'est-à-dire est-ce que les artistes en sont arrivés à un point où il y a une désappropriation de l'œuvre ou de la manière de créer une œuvre et que les artistes partagent la création d'une œuvre avec des communautés? Est-ce que ça existe, ça?
Oui, enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions en fait, dans la question. Il est clair que comme nous sommes, évolue. Et donc, les artistes eux-mêmes deviennent, comme on disait tout à l'heure, des médias. Ils ont des relations directes avec le public, hein, parfois. Et donc, d'ailleurs, on travaille récemment avec une illustratrice, Keratil, qui est donc toute une existence en soi, enfin, directe avec le public sur les réseaux sociaux notamment. Et parfois, ça passe par une collaboration, une intervention d'une institution comme les nôtres. Mais je dirais que ça impacte tout le monde. Et il faudra chacun dans son domaine d'activité, notre, comment on l'assume, comment on prend ça en compte. Et je dirais que là-dessus, on a une approche hybride. À la fois une approche volontariste et d'expérimenter, de pas avoir peur des lignes. Je sais, je vous donne un autre exemple anecdotique. On était un des premiers à faire travailler des youtubeurs à l'époque. On se disait, tiens, il y a ici une nouvelle manière d'adresser le public. Hein. Il y a des nouveaux des acteurs, enfin, et des artistes. Les youtubeurs sont aussi donc des artistes. Et on a dit, tiens, on pourrait essayer ça. Donc, la première, ça nous valait pas mal, aussi à moi personnellement, quelques ennuis. Pourquoi ça? C'est dégradant. Pourquoi parler? Pourquoi rigoler d'Alfur et pourquoi travailler avec ça échappe aux commandes publiques, enfin des et puis on a travaillé avec beaucoup de youtubeurs, mais avec celui-là, les premiers avec lesquels on a travaillé, il est devenu après beaucoup beaucoup plus cher pour qu'on continue à travailler. Je donne ça comme une sorte d'anecdote de dire que il faut expérimenter, il faut essayer, il faut tout le temps bouger des lignes dans ce monde. Il y a des accélérations où on vit avec des surprises toutes les 4 jours. Enfin, aujourd'hui, tout le monde parle comment on fait le design d'une visite. Enfin, on parlait tout à l'heure, peut-être, des post-Covid. Ce sont donc des questions. Il faudra que nous, et je pense qu'avec le digital, ça nous ancre dans les temps, dans notre temps. Donc, ce temps-là où on est, qui est forcément en accélération, en complexité et un temps des médias.
Et ce temps, il est compatible, excuse-moi, je te coupe, ce temps, il est compatible avec le temps de la culture, avec le temps de la création? Parce que ce temps, c'est un temps long. Comment vous faites cohabiter ces deux temps? C'est très, très intéressant comme sujet.
Oui, je pense que oui, bien évidemment, c'est compatible, et compatible dans la mesure où, d'abord, chacun d'entre nous, dans notre vie, on vit des temporalités différentes, hein. Après, tu m'as posé la question, comment, autant qu'une institution, on se positionne. Maintenant, la manière dont les temps, je te donne un autre exemple, c'est notre travail sur le patrimoine. Ce sont donc des sujets qui durent dans les temps et des valeurs dans les temps. Et donc, tu as parlé, à l'époque, je travaillais à l'INA et comme on a vraiment publié ces trésors, c'était vraiment, ça commençait un projet technologique, hein, parce que c'était possible de numériser et de donner accès. Et donc, le projet était vraiment mené comme un projet des technologies de pointe, hein, des observations et des rendus disponibles. Et assez vite, on a rendu compte que ce n'est pas de tous les projets. Bien évidemment, la technologie existe, hyper important. Elle donne la base pour ça, mais ce qui est important, c'est l'expérience. C'est, je dirais, l'usage de ces contenus d'archives. Et un autre exemple beaucoup plus récent, c'est tout notre travail, par exemple, sur des sites archéologiques. Hein. Donc, on a fait un travail il y a quelques années, c'était un de nos premiers temps sur l'exposition digitale. On travaillait sur les sites archéologiques des Proche-Orient, de la Syrie et d'Irak, qui est détruit ou endommagé par Daesh. Et on a fait un travail avec des outils complètement digitaux, hein, enfin des scans, des reconstructions.
Réalité virtuelle.
Des drones de réalité virtuelle, pour donner une expérience au public, une expérience complètement actuelle, je dirais, hein, qui les permette de vivre des patrimoines millénaires, hein, et parfois détruits. Et donc, je pense que là, il y a une manière, bien évidemment, de faire cohabiter, hein, différentes temporalités, comme tu viens de me poser la question. Toujours peut-être avec cette, encore une fois, une sorte donc de binôme, une approche très volontariste et très ancrée dans son temps, hein, avec une perspective et ambition, mais aussi humble, parce qu'on ne sait pas. Donc, il faut essayer, il faut le faire pour réussir, pour aller de.
Et dans ta perception et dans ton expérience, on parlait de temporalité, parlons d'espace. Là, tu nous parles de l'expo sur la Syrie, justement. À quel point les spectateurs, les visiteurs sont appétants à aller absorber une information qui n'est pas là, qui n'est pas réelle, qui n'est pas en live autour d'eux. Je ne suis pas en Syrie, en train, où je ne suis pas à Alep, où je ne suis pas, etc. Je reconstitue tout ça. Est-ce que ça fonctionne aussi dans... Je comprends la notion de temps. On peut parler des cinémas. Tu as travaillé aussi chez MK2. La manière dont les cinémas se réinventent en invitant le spectacle vivant. Il y a le Bolshoï chez Pathé Beaugrenel en live. On peut aller voir des spectacles. Voilà, le spectacle vivant s'invite. Ou des spectacles comiques, ou que sais-je. En tout cas, la culture live s'invite dans un cinéma qui, comme tu le disais, était plutôt dans une démarche ou un art narratif. Comment ces croisements se font? Est-ce que tu penses qu'il y a une appétence, un futur pour cette dimension spatiale complètement réinventée à l'intérieur des musées?
Oui, oui, la réponse est oui, parce que la visite des musées est une visite physique qui se passe dans l'espace. Hein. Je rebondis simplement sur, tu m'as donné une perche là, sur MK2 et la manière dont pas que l'on réinvente, mais on explore les frontières de ce qui est cinéma, de ce qui est, on les ressent tout le temps. Donc, à l'époque, on a fait, par exemple, le film Patrimonio, notamment de Buster Keaton, et on les a misés, restaurés, etc., mais en les proposant avec de nouveaux bandes son. Enfin, c'est des films muets. Et donc, pour les mettre à l'air du temps, on les a mis en musique, par exemple, par Jeff Mills, un grand compositeur, par des ciné-concerts, des lives, des performances, accompagnées aussi par une série des œuvres qui étaient derrière proposées dans une galerie d'art. Donc, en fait, sont un ensemble, en fait, des créations qui tournent, qui sont instigées par ça. Et justement, l'expérience physique ne fait pas que dans la salle de cinéma, mais aussi sur la piste de danse, mais aussi dans une galerie d'art. Et pour te donner un exemple beaucoup plus récent, c'est notre upcoming exhibition, à venir bientôt, notre exposition Pompéi. Pourquoi je dis ça? Parce que l'expo Pompéi, qui était censée ouvrir à la fin mars, on a dû arrêter les chantiers comme tout le monde. Donc, on a une exposition qui attend, confinée, hein, qui attend d'ouvrir ses portes. Et cette exposition est une exposition donc très numérique, très digitale, immersif, interactif, narratif, avec des grandes projections, où il y a une vraie valeur, je dirais, émotionnelle, mais aussi intellectuelle, de la visite physique. Parce qu'on va déambuler dans une reconstitution d'une rue pompéienne, à la fois avant l'éruption et après l'éruption. Et aujourd'hui, en déambulant, en découvrant un amphithéâtre, donc il y aura tout un aspect physique de cette visite, même si elle va être très 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 numérique en termes donc des propositions. On n'a pas perdu d'espace, au contraire, on travaille fort pour pouvoir l'ouvrir dans les règles sanitaires les plus adaptées, je l'espère bientôt, mais en même temps, enfin entre-temps, ou en attendant, on propose aujourd'hui une expérience Pompéi chez vous, enfin en ligne, qui est, je dirais, ça remplace pas, ça c'est pas une simple déclinaison. Expériences sont propres d'une exposition Pompéi chez vous. Comme on a vraiment une conception de la visite qui est à 360 degrés, ça veut dire que pour nous, les visiteurs, il est un visiteur avant qu'il vient, bien évidemment quand il est là, qu'il ou elle sont là, et après la visite. Mais aussi complètement en parallèle, même s'il ne vient pas, ce sont des visiteurs potentiels. Et donc, la proposition de Pompéi chez vous répond à ça, parce qu'aujourd'hui, en ligne, on peut trouver plein de vidéos, des podcasts, d'activités pour des jeunes, activités en famille, des jeux. On trouve une expérience en réalité augmentée où on peut incarner une livie, enfin un statut qui était trouvé dans les ruines de Pompéi chez soi, dans les salons, ou une expérience en réalité virtuelle, carrément, soit à travers un vidéo 360, soit on les télécharge, on les regarde dans son casque. Donc, en fait, c'est une multitude d'expériences qui font vivre une expérience, qui ne remplace en rien, qui s'ajoute, ou supplémente, si j'ose dire, supplément des Derrida dans ces sens, où ça ne remplace pas, mais ça s'ajoute à une expérience physique qui a toute sa force et toute son mérite.
Pour rebondir sur ce que tu dis et pour prendre une question qui nous a été posée, est-ce que justement, alors on a parlé beaucoup de dualité, hein, depuis tout à l'heure, tu as démarré avec la dualité, après on était sur le temps, sur l'espace, etc. Est-ce que cette dualité des expériences que vous proposez, c'est-à-dire l'expérience, allez, on va dire, classique d'un musée, d'une exposition, d'une visite, augmentée ou complémentée, comme tu l'as dit, par du digital, est-ce que ça favorise la culture pour tous, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas un accès beaucoup plus large au monde de la culture, si tant est que le monde de la culture en ait envie, hein, mais pour ceux qui en ont envie au sein du monde de la culture, est-ce que ça contribue à ça, ou est-ce qu'il y a un côté gadget, ou comment on fait pour éviter le côté gadget pour dire les choses de manière plus positive?
Oui, je pense qu'il faudra éviter les côtés gadgets dans la mesure où les gadgets, ils ajoutent en rien. Enfin, peut-être il fait briller pour un instant, mais ça fait pas partie de vraiment de l'expérience. Donc nous, on essaye de toute façon, et chaque fois, hein, de faire et de refaire ces expériences pour proposer des expériences authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? D'agir et de sentir des choses, je dirais, des choses concrètes et vraies pour chacun des visiteurs. Après, tu poses la question, est-ce que ça balaye plus large? Est-ce qu'avec ça, on arrive à élargir nos publics? La question est un peu plus complexe. La question, je dirais d'abord en creux, si on ne le fait pas ça, on va perdre public. Enfin, on va perdre même public. Parce qu'aujourd'hui, notre public, 92% de nos publics ont des smartphones. et plus que la moitié de ces publics font usage de leur smartphone en lien avec. Donc, de ne pas proposer une expérience qui inclut cette smartphone en lien avec la visite, c'est pas qu'on est. On va les perdre si on ne veut pas les proposer. C'est pour ça qu'on propose donc des billetteries en ligne horodatées sur son smartphone. C'est pour ça qu'on a des CRM. C'est pour ça que notre boutique en ligne aussi il est accessible par smartphone. Et c'est fait partie, je dirais, de l'expérience de tout le monde tous les jours. Donc on ne peut pas être en retrait. Enfin, vaut mieux pas être en retrait par rapport à ça. Par contre, et en plus, pour toucher d'autres types de publics, du coup, il y a vraiment une question de qualifier nos publics cibles. C'est qu'on sait très bien que c'est très lié au contenu qu'on leur propose. Hein. C'est pas, ouais. Par rapport aux différents types de contenus, et que derrière, d'aller chercher d'élargir ce public. Oui, notamment sur les nouveaux canaux des diffusions. Enfin, quand on a fait pour l'exposition Venise il y a un an et demi, une opération avec Snapchat, c'était en effet de trouver de nouveaux publics. C'était pour éviter le côté gadget, hein, où là, c'était vraiment basé sur des masques vénitiennes originales. Issu donc des festivals, des
cartes. Vous étiez en avance avec les masques alors, ouais, c'est ça.
Et donc du coup, il y avait une cohérence, je dirais, entre les formats et l'usage et la proposition qui est derrière à envoyer le public, s'il veut, à une éventuellement aussi une visite physique. Hein. Mais c'était pas l'idée, c'est pas de transformer tout de suite, mais c'est de faire une expérience en soi qui découvre la notion des masques vénitiennes à un public qui est peut-être pas initié à ça.
D'accord. Et donc, cette appropriation est passée par un outil digital. Il aurait pu passer par autre chose, mais ça a permis une plus grande appropriation ou une plus grande proximité avec l'exposition, c'est ça?
Absolument. Ça a permis cette proximité des utilisateurs et ce type d'activation aussi vise des segments qu'on ne touche pas forcément par les autres canaux. Ouais. Nos abonnés. On a un outil CRM et des systèmes d'abonnement performants qui touchent donc, je dirais, les différentes typologies des relations relationnelles des publics. Parfois, il faut aller chercher encore plus loin. Hein. Donc ça, c'est un des exemples.
Il y a une question. Alors, on n'avait pas prévu de partir sur ce terrain-là, mais j'ai vu une question dans les spectateurs. Une question sur l'impact, justement, que cela sur justement une potentielle désincarnation dans la création artistique de ces outils digitaux ou d'une certaine distanciation entre la manière de créer ou l'art de créer et des nouveaux outils qui sont là, même si l'utilisation des outils technologiques date pas d'hier dans la création artistique. Mais est-ce qu'on va vers un chemin, tu penses, qui pourrait être celui-là?
Ouais, j'y pense pas. Enfin, je pense pas. Comme je pense pas que les visites virtuelles ou les propositions digitales remplacent la visite physique, je pense pas. Et d'ailleurs, toutes nos études et toute notre expérience montrent que c'est pas le cas. Je pense pas que ça existe aussi dans la création. Au contraire, je pense qu'il y a un élargissement des champs de la création et on voit très bien comment des artistes s'emparent des outils digitaux, comment ils hybrident dans le digital ou pas. On a fait une exposition l'année dernière sur artistes et robots, bah, qui raconte l'histoire de l'imbrication entre la création humaine, les artistes, et des machines. Donc depuis les années 50, les chauffeurs avec ses premières cultures robots, jusqu'à aujourd'hui où on peut dire. D'ailleurs, on a présenté un film créé par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des questions qui se posent. Je pense que les artistes, peut-être un des premiers à les poser, hein, ce sont les artistes. Je pense que ça, on réincarne en rien. Enfin, au contraire, ça élargit les champs des expressions et les outils.
Il y a un mouvement qu'on peut voir quand on fait des visites, qui n'est pas purement culturel, mais qui, dans le monde des expositions ou des visites, l'atelier des Lumières ou... le Team Lab à Tokyo, qui est passé par la France, dans le théâtre. Je vois qu'il y a une question aussi dans nos spectateurs sur les expériences de théâtre immersive. Quelle est votre position côté RMN là-dessus. Est-ce qu'on va là-dessus? Est-ce que vous avez envie d'aller là-dessus, l'immersion, l'expérientiel?
Absolument. Je pense que l'expulsion qu'on va ouvrir.
On a hâte de voir Pompéi.
Va donner une incarnation, enfin, une précision de nos, je dirais, de la manière dont nous, on conçoit un nouveau type des expositions, enfin, on appelle immersion. Nous, on pense que l'immersion n'est fait qu'une partie de l'expérience. Hein. Ça ne suffit pas d'être simplement immergé. Il faut offrir aussi donc d'engager avec le public aussi avec des narrations. Enfin, on raconte des choses, il y a de l'information, il y a des contenus, il y a aussi donc des interactions. La manière où le public, pas simplement immergé esthétiquement, mais la manière dont le public est acteur de sa propre visite. Donc, en fait, c'est peut-être la combinaison de ces trois typologies qui sont à la fois immersion, sensation, narration, information et interaction qui font que on élargit encore, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux articles, par rapport à nous, producteurs des expositions, les champs de ce qui est une exposition.
Très clair. Il nous reste deux questions, quelques minutes, si tu veux bien encore rester encore un tout petit peu avec nous. Est-ce qu'il y a un moment, question qu'on pose classiquement à nos invités, est-ce qu'il y a un moment, toi, dans ta vie personnelle, professionnelle, où tu as senti sur ton secteur que l'expérience faisait toute la différence et nous emmenait vers un nouveau champ de soit de création, soit de création de valeur, soit de création tout court?
Écoute, je ne sais pas s'il y avait un moment, un tournant, parce que je pense que, comme toi, moi, je suis tombé dans la numérique dans les années des facs. Hein. Enfin, j'ai fait la philosophie, notamment, comme des études. Et je tombais ça parce qu'on y était. Hein. Donc, depuis, je pense que c'est qui m'inspire toujours par rapport à au numérique, c'est son levier des curiosités. C'est la manière où, avec le numérique, on peut, après moi, c'est personnel, pour moi, mais je pense aussi par rapport au public, la manière dont ça élargit, surtout dans la culture, dans l'art, les champs, c'est parce que c'est très lié à cette... on est tout le temps en train de découvrir d'autres choses, de faire des refaire, bon, à propos de Pompéi, j'ai tombé en préparant les expos sur ce qu'a dit Freud il y a plus de 100 ans. Il a dit, c'est maintenant, Pompéi tombe en ruine depuis qu'on a commencé à l'exhumer. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le temps, enfin, il faut faire, il faut défaire, il faut refaire. Et je pense qu'avec le numérique, et aujourd'hui, la manière où il articule dans la culture, on arrive à, il est souhaitable qu'on arrive à le faire.
Merci pour cette réponse. Donc, une avant-dernière question sur, les changements structurants au sens des structures dans les qui animent le monde culturel. Est-ce qu'il y a des changements structurants à prendre en compte qui te paraissent nécessaires, qui soient culturels, c'est le cas de le dire, qui soient de l'ordre des collaborateurs, de l'ordre de la culture d'entreprise, même si c'est pas le terme que vous utilisez, de l'ordre des organigrammes, des organisations. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ou qui est déjà en place?
Je sais pas si tu sais, mais il y a un débat très profond au sein de l'Organisation mondiale des musées, l'ICOM, qui est dépendant de l'UNESCO. Donc, depuis deux ans maintenant, il y a un débat sur refaire la charte de l'ICOM, qui est quand même les International Commission, Committee of Museums. C'est l'organisation la plus importante au monde. Il y a un débat de fond pour l'évolution de la charte. Il définit qu'est-ce qui est un musée, qu'est-ce qui est une exposition, qu'est-ce qui est une visite. Et c'est le débat qui clive le monde du musée entre une définition, je dirais, actuelle qui est basée sur la conservation, sur les artefacts, sur les collections, vers une définition plus large qui inclut des notions comme public et expérience dans sa définition même. Pour l'anecdote de ce débat qui n'est pas encore clos, parce que les votes de tous les dernières assemblées mondiales de l'ICOM n'est pas arrivé à un consensus, donc le débat a été reporté. Enfin, la vote a été reportée, donc la charte n'est pas encore corrigée.
C'est l'UNESCO, ça, on aime bien discuter à l'UNESCO.
Oui, ben là, c'est...
Plus que de mettre d'accord.
Exactement, bon, il faut mettre d'accord beaucoup, beaucoup de monde, des milliers de membres. Mais je pense que c'est éclairant par rapport à ces évolutions, du fait que nous, par exemple, bien évidemment, on a des nouveaux métiers chez nous. Enfin, il y a des gens qui font des CRM, qui font des data, qui opèrent des boutiques en ligne, qui opèrent donc des billetteries en ligne. Et donc, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles offres qui on l'intègre dans notre organisation. Hein. Et je pense que c'est encore une fois aujourd'hui, ça c'est notre point de vue, c'est mon point de vue, c'est nécessaire parce que des coûts. Pour être encore dans son temps, dans son monde. Et là, je paraphrase un peu Chris Marker qui a dit qu'à l'époque, il y a un moment, j'ai dit le fond de l'air est numérique. Hein. Donc, lui, il a dit ça par rapport à d'autres couleurs. Hein. Mais comme le fond de l'air est numérique, ça, c'est vraiment notre temps. Donc, il faut y être.
Une dernière question, on arrive à la fin de cet entretien, sur les impacts, on ne peut pas faire l'impasse sur la période qu'on est en train de vivre, l'impact de cette fermeture des lieux de culture, entre autres, hein, évidemment, beaucoup d'autres lieux ont dû fermer. Est-ce que tu y vois un impact long terme, positif ou négatif, bien sûr, un redémarrage sur autre chose?
Bah oui, bien sûr qu'il y aura des impacts. Bon, il y a déjà des impacts, il y a des impacts pour... D'abord, comme pour tout le monde, on a des impacts économiques majeurs. Hein. On est un secteur de ce qu'on dit de hospitality qui reçoit des publics, des personnes. Du coup, quand on est complètement fermé et qu'on ne peut plus recevoir donc des publics, il y a des impacts majeurs. Donc, je commençais par ça. Derrière, des artistes, des métiers, des gens avec lesquels on travaille. J'espère que là, on va, à un moment donné, il faudra qu'on arrive à dépasser cette stade. Après, il y aura sûrement des impacts plus profonds. Je pense que la manière dont on conçoit la visite, hein, je disais tout à l'heure que nous, on les pratique, mais je pense que cette pratique-là d'avoir une conception de visite à 360 va devenir beaucoup plus répandue. Hein. Enfin, ce sera nécessaire, hein, de voir. La visite physique ne fait qu'une partie de rencontre entre un public et les contenus culturels et artistiques. Donc, bien évidemment, la visite physique, il a ses attributs, ses caractéristiques, très importants, mais c'est simplement une partie. Hein. Donc, c'est pas... Et ça, je pense que c'est un effet qui va... Enfin, accompagner. Et il y aura des effets sur la manière dont on accueille le public hein, sur place. Enfin, si je parle de manière physique, de manière très opérationnelle et très... je dirais immédiate, hein, qu'on va ouvrir prochainement les expositions. Il y aura des notions de distanciation sociale, des jauges limitées, etc. Ça va nous accompagner, je pense, pour un bon moment.
Ok. Roy, merci beaucoup pour cet échange. Okay. C'était extrêmement intéressant, comme chacun de vos échanges. Merci d'avoir pris le temps et je suis ravi. Merci pour les gens qui ont participé aussi, les personnes qui ont participé à cet échange avec nous, qui nous ont posé des questions, qui ont été simples spectateurs, beaucoup de choses autour de l'expérience, et on voit que le monde de la culture n'a pas fini de se réinventer, et c'est très très positif et très exaltant pour l'avenir. Merci beaucoup pour ton temps, Roy. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir.
Je ne fais que défendre mes droits de consommateur.
On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous avez des naturels produits.
Un bon vendeur a toujours un sourire sincère.
Le client est roi. Et le client, c'est vous.